Je vais passer le relais à Didier Jacquemin, si je me trompe dans ton titre, Didier, délégué général des Francas, et Damien Bertillier, vice-président du réseau des villes éducatrices, qui vont plutôt nous faire entendre la voix des associations, et en particulier des associations d'éducation populaire, et des réseaux de collectivités. Donc, à toi Didier, puisque c'est toi le grand maître cet après-midi.
Bonjour à tous. Yves l'a dit, je vais tout à la fois tenter d'animer l'après-midi et par ailleurs porter peut-être quelques propos des associations d'éducation populaire. Je suis délégué général des Francas, il l'a dit, mais je suis aussi président du collectif des associations partenaires de l'école, qui rassemble 25 associations aujourd'hui, mouvements pédagogiques, mouvements d'éducation populaire, je ne vais pas toutes les lister, ça prendrait un peu de temps, collectif des associations partenaires de l'école, qui sur ce qui a fait l'objet de ces deux jours, a largement travaillé, puisqu'il avait contribué, avant l'apparition des PEDT dans la loi de refondation, il avait contribué à la consultation qu'avait mis en place le ministre précédent sur les rythmes scolaires. Et puis, parmi les associations qui sont au sein du CAP, celles que je représente notamment, travaillent depuis fort longtemps sur la question des projets éducatifs locaux qui se trouvent aujourd'hui, d'une certaine manière, je pense qu'on y reviendra, déclinés à travers les projets éducatifs de territoire. À ce titre... moi je participe aux travaux du comité de suivi des rythmes scolaires qui travaille pas uniquement sur la question des PDT mais aussi sur celle-ci et je participe aussi, je pense que Marc Engel en dira quelques éléments tout à l'heure, au groupe de pilotage de l'évaluation que le ministère a mis en place il y a quelques semaines sur cette question des PDT. Je porterai, je pense, dans le courant du débat, quelques regards de l'éducation populaire, je dirais, sur effectivement cette politique publique qui s'incarne à travers les projets éducatifs de territoire. J'ai pas pu, dans une semaine qui est la semaine de l'éducation à Paris, me libérer pour participer à l'ensemble des travaux, mais un certain nombre d'amis de la Ligue de l'enseignement qui étaient là notamment hier, m'ont fait hier un compte-rendu synthétique des axes saillants, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en échanger cet après-midi. Le grand témoin, et je vais lui donner la parole dans quelques instants, c'est Marc Savicky, non, je l'excuse, malheureusement Marc, président du... Marc qui est de la ville de Brest, qui préside... Le réseau français des villes éducatrices n'a pas pu se rendre disponible pour être là cet après-midi. Et donc c'est Damien Bertillier, qui est vice-président du réseau, élu à Villeurbanne, qui va jouer ce rôle, je dirais, de grand témoin. Alors il n'est pas non plus imprégné de tout ce qui a pu se dire depuis hier, mais un fervent acteur du développement de ses politiques sur sa ville et dans le réseau des... ville éducatrice, peut-être pour lancer ce qu'il va vous dire, deux mots d'introduction, finalement en disant que l'inscription dans la loi de refondation de l'école des projets éducatifs de territoire a conduit à la généralisation d'une forme de développement de politique éducative territoriale. Nous en sommes aujourd'hui à la quatrième année. On peut déjà aujourd'hui, je dirais, tirer un certain nombre d'enseignements qui notamment doivent certainement se réfléchir autour de cette logique de généralisation, puisque je l'ai dit tout à l'heure, des villes se sont lancées dans les projets éducatifs locaux depuis une vingtaine d'années. On avait déjà des éléments. L'intérêt aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, il y a généralisation. Donc Damien, au regard finalement de ce phénomène qui s'est développé depuis 4 ans, quel regard porte le réseau français des villes éducatrices et quel regard tu portes peut-être aussi à partir de l'expérience que tu as à Villeurbanne.
Merci Didier, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation, merci à Yves d'avoir pensé à inviter le réseau des villes éducatrices. Quelques mots sur le réseau. Donc tu as excusé Marc Savicki, effectivement le réseau est un réseau d'élus de villes essentiellement, quelques agglomérations dont la métropole de Lyon dont je suis moi-même élu. Je dirais quelques mots tout à l'heure parce qu'il y a une spécificité territoriale et un réseau qui s'est beaucoup impliqué d'abord au moment de l'appel de Bobigny et ensuite dans la loi de refondation et qui porte une ambition qui relaye l'ambition des villes d'être des villes éducatrices, c'est-à-dire des villes dans lesquelles l'éducation est au centre des priorités politiques et dans lesquelles l'éducation permet de faire le lien entre les différentes politiques. Et je pense qu'à travers la question des PEDT, on voit bien aujourd'hui toute l'importance de ce lien-là. Alors, effectivement, Didier Jacquemin l'a dit, c'est difficile d'intervenir en dernier quand on n'a pas écouté tout ce qu'il y avait avant, mais comme je suis là un peu comme un rôle de témoin, je vais témoigner à partir de là où je suis, et ce qui sera intéressant, c'est évidemment qu'il y ait une interaction. Je vais être assez bref dans les propos introductifs, et puis après, j'aurai peut-être l'occasion de revenir dans l'échange. Vous dire que... On a lu avec attention l'enquête de Pollock sur qui vous a été présentée, je crois, par Yves Fournel hier, sur les PEDT, qui, même si elle cible un certain nombre, et donc elle n'a pas vocation universelle de représentativité, elle donne quand même des indications qui sont très intéressantes. Je ne vais pas toutes les reprendre, mais il y a quand même une question... j'ai tendance à voir quand même plutôt le verre à moitié plein... plus on va approcher des élections présidentielles, plus on va voir le verre à moitié vide, enfin tout ce qui reste à remplir, et c'est même d'ailleurs le but. Parfois on peut même être désespéré de voir que certains peuvent être tentés de le vider. Mais en tout cas, je voudrais quand même ressouligner, même si ça a sans doute été fait plusieurs fois, qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait plus de 90% des communes qui aient un PEDT, il faut quand même qu'on mesure ce que ça signifie quand même. Aujourd'hui, la plupart des villes ont un projet éducatif. Ça ne veut pas dire, évidemment, que ce projet est extrêmement qualitatif, qu'il dit tout. On a encore énormément de choses, et je vais y venir ensuite. Mais il faut quand même acter ça, parce qu'on a peut-être parfois obligé, mais en tout cas, on a engagé les villes là-dedans, et il s'est passé plein de choses à travers ça. Je crois que c'est ce que dit cette enquête. Et ce qu'elle pointe, c'est que peut-être qu'au sein des collectivités, elle a davantage permis d'articuler les dispositifs existants que les politiques sectorielles, et ça je suis assez d'accord avec ça, que ça nous a un peu obligé à revoir comment on travaillait sur la politique de la ville, sur les contrats enfants jeunesse, enfin toutes les contractualisations que nous avons, et ce qui reste encore sans doute, ça reste encore à parfaire, mais ce qui reste sans doute à faire, c'est tout ce qu'il y a de lien à faire encore entre toutes les politiques thématiques qu'on a dans les collectivités. Et la question aussi des tranches d'âge, et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus, mais je suis encore frappé aujourd'hui, et c'est tout à fait évoqué dans le rapport, par le fait qu'on bien que la circulaire initiale prévoit que les PEDT puissent être élargis, d'ailleurs au-delà du périscolaire, mais aussi et surtout au-delà de la tranche du premier degré, on a encore très très peu de PEDT qui sont élargis. Et moi-même, dans ma commune, quand j'ai récemment, parce qu'on n'était finalement pas si vertueux que ça, on était encore sur les 2-11 ans, quand j'ai dit à la DDSS et à l'Éducation nationale que nous allions leur demander de signer un PEDT beaucoup plus élargi, ils m'ont dit c'est merveilleux, vous êtes les premiers du département. Et le simple fait de constater que dans un département comme le Rhône, on soit les premiers, ça veut dire quand même tout le chemin qui reste à parcourir. Et on voit bien tout l'enjeu qu'il y a autour de l'articulation avec la politique de la petite enfance. Aujourd'hui, avec le bon quand même, malgré tout, je suis toujours dans le verre à moitié plein, mais de la scolarisation des 2 ans, on voit bien tout ce que ça a transformé dans le rapport, dans l'entrée dans l'école, et ce que ça a, ou ce qu'a retransformé, parce que c'est finalement la scolarisation des 2 ans, c'est quelque chose d'assez ancien qui avait été un peu perdu. Et puis l'articulation, et ça on est vraiment dedans, l'articulation entre le premier et le second degré. Et quand je dis ça, je parle du point de vue scolaire, mais je parle aussi de tout ce que ça entraîne derrière en termes de, d'habitude de travail dans un réseau d'éducation prioritaire dans lequel l'éducation populaire a quand même de plus en plus sa place, et les collectivités aussi, et où on commence à avoir des travaux entre des enseignants de premier degré pluridisciplinaires et des enseignants de second degré disciplinaires qui eux-mêmes font de l'interdisciplinarité, paraît-il, depuis la rentrée, mais je pense sans doute quand même beaucoup avant. Et donc ça manque aujourd'hui encore dans les PEDT en termes de traduction et d'objectifs à remplir. D'autant plus que ce qu'on constate, c'est que les communes interviennent finalement beaucoup dans les collèges. Parfois, et je le dis parce que la métropole de Lyon, dont je suis élu en charge des actions éducatives et du numérique éducatif, est une collectivité nouvelle qui intègre les compétences du département et les compétences de la communauté urbaine. Il n'y a plus de département maintenant sur la métropole de Lyon. Et donc on a mis les compétences collèges. Et quand on regarde, finalement, on se rend compte que les villes font quasiment autant en matière d'action éducative dans les collèges que le département dont c'est la compétence première. Voilà. Donc ça, c'est quand même peut-être une évidence, mais qu'on n'a pas forcément écrite, qu'on n'a pas forcément quantifié, qu'on n'a pas... voilà. Et pour faire de l'articulation derrière, il faut qu'on puisse mettre tout ça à plat. D'autant plus que les rectorats signent aujourd'hui des conventions cadres avec... les collectivités départementales, régionales. Il va y avoir des conventions tripartites, puisque les départements vont co-signer la convention qu'il y avait entre le rectorat et les collèges. Donc c'est quand même intéressant, parce qu'autour de ça, on fait un diagnostic sur le quartier. On voit aussi toutes les ressources du quartier. Et quand je dis toutes les ressources, c'est bien évidemment toutes les ressources, y compris associatives. Et après, c'est comment les financements qu'on va attribuer à cet établissement-là, ils vont être ils vont aller dans le sens de conforter 3-4 grands objectifs qu'on se donne sur les enjeux éducatifs de l'établissement et de son environnement. Pour ça, effectivement, il faut et c'est bien, ça fait partie des éléments qui sont bien indiqués dans le rapport. Hein, c'est le déficit encore de formation et de formation commune. C'est vrai qu'on l'a vu sur la réforme du collège, on l'a vu sur les nouveaux programmes. Il y a une habitude, évidemment, et puis c'est normal, de formation et éducation nationale. Je sais que c'est des choses que vous avez largement évoquées, sans doute. Il y avait peut-être encore dans la salle aujourd'hui des IEN, mais je trouve que c'est vraiment autour de ça, là, qu'on voit qu'on peut faire bouger vraiment des lignes. C'est-à-dire que quand on arrive à organiser des formations, et ça existe quand même de plus en plus, entre les différents intervenants des temps scolaires, des temps périscolaires, et sur le temps scolaire de tous les intervenants, et les temps extrascolaires également, on voit qu'on peut faire évoluer les choses. Parce que souvent, je suis interpellé par les IEN qui disent, et tous mes collègues des villes du réseau ont les mêmes interrogations, qui disent, bon, ben là, il faudrait qu'on enlève un peu de mobilier dans les salles de classe de maternelle, parce que les nouveaux programmes font que les enfants doivent plus bouger, c'est Montessori, voilà. Là, il nous faudrait des vidéoprojecteurs interactifs, là, il nous faudrait des tablettes. Nous avons le parcours citoyen. Mais comment ça, vous ne connaissez pas le parcours citoyen? Oui, mais on a déjà des parcours citoyens, souvent. Et donc, il faut déjà peut-être qu'on arrive à parler un peu le même langage, ou en tout cas, trouver un langage commun, si ce n'est de parler tout le temps le même, parce que ce n'est pas forcément possible et nécessaire, mais en tout cas, qu'on arrive à parler un langage commun, parce que finalement, quand je vois les parcours qui ont été mis en place récemment par l'Éducation nationale, ils regroupent un certain nombre de choses qu'on faisait déjà, qui ne s'appelaient pas forcément parcours, mais... pour qu'on s'intègre bien dans cette dynamique des programmes, il faut que les techniciens des collectivités maîtrisent ça. Donc il faut aussi que tout le travail qui a été fait autour des programmes puisse être diffusé. Et à l'inverse, qu'on s'imprègne de ce qui est fait à l'extérieur et qui peut aussi alimenter le travail qui est fait sur les programmes. Et je pense que l'élément qui devrait être central là-dedans, c'est le socle commun. J'avais entendu dans une des colloques de Pollock, Michel Lussault, dire que dans le travail qui avait été mené sur le socle commun, son souhait initial, c'était que vraiment on écrive que tous les acteurs concouraient à la mise en œuvre du socle commun. Je crois que cette évidence-là, il faudrait peut-être la rappeler, parce que c'est pas du coup une évidence, mais... déjà, il y a une connaissance du socle commun à avoir et à partager. Et il y a un vrai travail de savoir comment on l'alimente chacun à sa place, parce qu'il ne peut pas être alimenté que par le temps scolaire, même si c'est évidemment sur le temps scolaire que les choses doivent se construire dans les apprentissages du socle commun de manière évidemment prioritaire. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à partager ça. Il y avait un autre élément, et peut-être je terminerai sur... sur ce point-là, en tout cas qui me permettra d'élargir, c'est la question de la concertation et comment sont élaborés les projets éducatifs, comment les activités périscolaires sont élaborées. Enfin, quand on décline après les choses, on voit bien, et je crois que ça a été relevé plutôt à plusieurs reprises dans ces deux journées, cette impression parfois qu'il y a du descendant, de l'informatif. Bon, ça, je veux dire, on pourrait le dire pour n'importe quelle politique publique, hein. On est quand même sur quelque chose où on a encore du mal à sortir des habitudes. Et aussi parce que il y a ce paradoxe de la population, des citoyens, qui est à la fois de vouloir participer, de vouloir être intégré, en même temps de vouloir avoir un service qui arrive et qui est celui qui conforme à celui qu'on a payé, quoi. Donc, et nous, en tant que politique, là, c'est là où il faut qu'on arrive à trouver cette bonne articulation. En garantissant un service universel, en garantissant l'équité ou l'égalité d'un service, et en même temps en donnant la possibilité que les acteurs eux-mêmes alimentent ce service-là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment, je pense, qui est... on l'a vu sur la question des rythmes scolaires, hein, et dans le rapport de Pollock, c'est indiqué le fait qu'il y ait énormément, et j'en suis d'ailleurs un des exemples dans ma commune, hein, et beaucoup de mes collègues également, que le périscolaire a été beaucoup constitué par la collectivité en régie avec un service complètement municipal, même s'il fait appel à des associations. On voit bien que dans la construction, on répond à une demande de la population qui est d'avoir, voilà, on veut la même chose, les mêmes activités dans toutes les écoles, ce qui peut, enfin, en termes d'égalité, s'entendre, et en même temps, le fait qu'on va se priver sans doute d'initiative, on va se priver peut-être d'un regard différent, et c'est aussi une forme d'autocritique que je peux faire formulé ici, et on va surtout ne pas forcément aller à l'encontre de ce phénomène d'actionnariat, de consumérisme qu'on dénonce vis-à-vis des services publics depuis assez longtemps, mais je pense que peut-être parfois on a pu renforcer nous-mêmes sans le vouloir. Et donc, si on revient à la question du PEDT, je pense que c'est ça l'enjeu maintenant dans les mois et les années qui viennent, maintenant que les choses sont actées, qu'on a des belles circulaires, on a des beaux PEDT qui permettent de parler de taux d'encadrement, bon, ça, on est bon là-dessus, même si les taux d'encadrement, il faudrait qu'on évolue positivement quand on aura plus d'argent, bon, je vais pas redétailler tout ça, mais là où vraiment il faut qu'on arrive à progresser ensemble, c'est sur la coélaboration de tout cela, et la coélaboration, c'est autant la place des acteurs éducatifs de l'école, des parents, des associations du milieu de l'éducation populaire, des citoyens aussi, parce que l'école, elle appartient à tous, et au sein même, et c'est aussi peut-être par ça qu'il faut commencer soi-même en tant que collectivité, au sein d'une même collectivité. Le fait, moi j'ai mis en place dans ma ville un comité qu'on appelle 025, qui regroupe tous les élus qui ont à voir avec la thématique 025, et donc qui ont à voir avec le projet éducatif qui s'appelle chez nous Grandir à Villeurbanne. Ça oblige tout le monde à se dire comment on peut contribuer à cet objectif-là, quoi, à ces objectifs éducatifs. Donc ça veut dire que concrètement, les établissements culturels aujourd'hui ont réorienté leur intervention pour intervenir plus en direction des publics enfants, jeunes, que la politique associative, elle essaie de rejoindre, et c'est le travail qu'on a fait avec des comités locaux, de rejoindre le travail que peut faire la collectivité, et que voilà, on arrive à élaborer ensemble des objectifs et à se donner les moyens derrière de les mettre en œuvre. Et à partir de ça, c'est évidemment l'élargissement sur les différents temps de ce qu'on va écrire dans le PEDT, et l'élargissement sur les âges. Voilà, moi je pense vraiment que quand on aura, dans les trois prochaines années, puisque finalement là on est à peu près à 3 ans de mise en œuvre des PEDT, donc on peut se donner un plan triennal, c'est peut-être autour de ces objectifs qualitatifs, de ces objectifs transversaux qu'on a souvent... listé, dans lequel il y a de la concertation, mais parce qu'au fond, je pense vraiment, et c'est un peu la conviction qu'on partage tous dans le réseau, c'est que c'est à partir de la politique éducative qu'on peut transformer l'action publique des collectivités, parce que c'est une des seules politiques qui permet de faire lien entre toutes, et que c'est une des politiques où les collectivités ont quand même une place de plus en plus importante, et où elles sont... On travaille sur un territoire où tous les acteurs sont obligés de travailler ensemble pour concourir à un objectif commun, et qui, d'un point de vue budgétaire, est quand même le premier les budgets de nos collectivités. Et donc, je pense que si on arrive à transformer la façon de produire du service public, la façon de travailler des objectifs éducatifs, qui n'est pas d'ailleurs que du service public, on arrivera à travers ça à transformer la façon de faire de la politique, la façon qu'ont les collectivités d'intervenir, parce qu'on voit bien, sans revenir sur une actualité récente, que de toute façon, aujourd'hui, les citoyens ne se retrouvent plus dans ce qu'est aujourd'hui la politique, et que les signaux d'alerte extrêmement forts que nous avons eus ces derniers jours, ces derniers mois, ne peuvent que nous impliquer dans un travail qui dépassera même le champ strictement de l'éducation, mais qui est simplement celui de vouloir reconstruire la société à partir aussi d'un certain nombre de bases qui seront forcément nouvelles.
Merci Damien. Bien sûr, vous allez pouvoir réagir dans quelques instants. Je vais tirer quelques éléments et puis peut-être m'autoriser à un point de vue éducation populaire. Merci Damien, parce que dans ton propos, on est bien sûr largement au-delà du PEDT pensé comme étant le projet qui permet d'aménager le temps scolaire. D'ailleurs, ta conclusion, elle dit ça. Ta conclusion, elle dit en réalité... La collectivité doit prendre la politique éducative comme, j'ai envie de dire, la politique maîtresse, parce que elle peut permettre, et ça nous le savons tous, tous les Français, il y a 66 millions de spécialistes de l'éducation dans notre pays, vous le savez. Tout le monde a un point de vue sur l'éducation. Et pour éviter un certain nombre de ruptures, on voit bien qu'il faut trouver le moyen, ça revient à ce que tu disais sur coélaboration, concertation, de faire dialoguer finalement tout le monde, les parents, les enseignants, sur cette question-là. Et donc au-delà, je dirais, de la loi qui a installé les PEDT, on voit bien qu'il y a un ensemble d'enjeux. Le fait effectivement d'en faire, on dirait, un axe politique de conduite de politique territoriale, c'est un élément. Le fait aussi certainement de considérer qu'il faut dépasser... Tu l'as pointé, l'âge scolaire, enfin l'âge de 11 ans pour l'ouvrir vers les collèges. Le fait aussi, et tu le dis finalement, qu'il faudrait peut-être que nous soyons attentifs à mettre en lien le PEDT et les autres éléments de la loi de refondation, notamment l'école du socle, puisque l'école du socle, c'est l'école de la maternelle au collège. Donc si on mettait en cohérence école du socle et PEDT, on irait jusqu'au collège. Voilà. Et puis tu l'as pointé également, la nécessité, et l'organisation comme la mienne est particulièrement attentive au fait que, mais c'est vrai pour d'autres politiques, que l'engagement des collectivités sur le périscolaire ne les conduise pas à se désengager sur l'extrascolaire, ne les conduise pas à se désengager sur le départ en classe de découverte, ne les engage, enfin, etc., etc. On pourrait continuer avec toute l'ouverture culturelle, etc. Moi, j'ai envie de, peut-être dans un premier temps, d'un dialogue, et puis après avec vous, j'ai envie de te poser deux questions. Parce que tu dis, il faut un langage commun, il faut une conception commune. Et est-ce qu'on a avancé sur une conception commune de l'éducation ? Parce que si on veut faire un projet éducatif ensemble, faut quand même qu'on ait un peu, une vision partagée de la question de l'éducation. Même si, bien sûr, les espaces éducatifs, l'école, la médiathèque, le centre culturel, etc., ils ont leur spécificité d'intervention. Mais est-ce que finalement, on a suffisamment travaillé ce que l'on souhaite mettre ensemble derrière cette question d'éducation ?
J'ai quand même l'impression que la réponse est en partie dans la question, mais je vais quand même y répondre. Évidemment que non, on n'a pas suffisamment travaillé. On a quand même travaillé parce que les objectifs de la loi de refondation, elles recoupent un certain nombre de choses qu'on faisait déjà sur la participation, sur la citoyenneté, sur... les parcours d'éducation artistique et culturelle, enfin, je veux dire, sur les, où on parle là de la maternelle à l'université, enfin, Donc, oui, je pense qu'on partage des objectifs, mais on n'arrive pas suffisamment à les nommer peut-être de la même façon, en tout cas de les comprendre et après de les traduire ensemble, parce que tout le monde partage les objectifs d'accroître les compétences citoyennes, mais selon qu'on parle des élèves, des enfants, des jeunes, sur quel temps. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à se dire, et je pense quand même que le PEDT a permis en partie ça, mais c'est quand même ce sur quoi il faudra travailler mieux, c'est de se dire que s'il y a un objectif sur la citoyenneté, ben, on y concourt via l'école, parce qu'il y a un certain nombre de choses à apprendre sur les institutions, qu'on va pouvoir l'éprouver sur le temps périscolaire de manière différente, qu'on va découvrir une expérience citoyenne sur une classe transplantée, sur un camp, enfin voilà, et qu'on arrive à se donner ces objectifs communs là. Après, il y a la question de l'échelon, parce que on peut avoir des objectifs au niveau national, on peut les avoir au niveau académique, mais je pense quand même que le fait que les PEDT soient communaux ou intercommunaux, plus d'ailleurs dans les zones rurales, ils sont intercommunaux, c'est quand même de se dire qu'on est à une échelle où on passe vite de l'objectif à l'action, quoi. Et ça, je trouve que c'est jamais facile de trouver d'ailleurs le bon échelon, hein. Je prends l'exemple de Villeurbanne, où on a un échelon au niveau communal, où on a les grands objectifs de grandir à Villeurbanne, et ensuite on les traduit dans des comités locaux. Et en fait, c'est même plutôt l'inverse, parce que c'est les comités locaux qui ont écrit le projet global. Voilà. Et qu'à un moment, dans un quartier, on va se dire qu'il y a tel objectif, et donc l'école, et c'est pas toujours simple d'ailleurs de faire venir l'école dans ce cadre-là, mais on commence à y arriver, le collège, on va travailler ensemble sur cet objectif, parce qu'on a vu que dans ce quartier-là, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des jeunes qui étaient en attente de telle chose, et donc il faut qu'on y réponde ensemble. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être, à mon avis, à vraiment pousser. Alors on parlait tout à l'heure en arrivant là, de la nouvelle circulaire, parce qu'on aime bien lire les circulaires, qui est sur l'organisation du temps scolaire dans le premier degré, encadrement des activités périscolaires et nouvelles actions des groupes d'appui qui vient de paraître là. Je ne vais pas reprendre toute la circulaire, mais il y a un point sur les groupes d'appui départementaux. Bon, on a quand même le sentiment que cette circulaire redit des choses qui ont déjà été écrites, mais elle parle quand même des groupes d'appui départementaux comme étant un endroit où on essaie de réunir justement à la fois les acteurs, enfin tous les acteurs institutionnels signataires du PEDT, mais je pense un peu au-delà, que ce soit un vrai lieu d'échange, de pilotage et de diffusion aussi des bonnes pratiques, parce que je suis quand même toujours frappé qu'à l'ère d'Internet, on soit toujours, même dans un département où les gens sont quand même côte à côte, on soit toujours à penser en fonction uniquement de son espace, sans regarder ce qui est fait à côté. D'autant plus quand on mobilise les mêmes ressources, parfois, ou qu'on est en concurrence sur la mobilisation des ressources et qu'on est en incapacité, d'ailleurs, de se mutualiser là-dessus. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, surtout qu'elle était très... Enfin, j'avais induit la réponse dans la question... Mais je pense que c'est un élément fondamental. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure les espaces où il faut construire le projet. Je pense qu'on a besoin d'espaces opérationnels pour mettre en œuvre. Mais il y a certainement, et tu faisais référence au fait que la politique éducative pouvait être la politique maîtresse, finalement, du territoire. Si on n'installe pas le débat sur l'éducation, alors, avec les enfants, les jeunes eux-mêmes, avec les parents et avec les citoyens, on peut d'une certaine manière viser une perspective éducative, mais qui sera éventuellement, je vais le dire de cette manière-là, incomprise par un certain nombre. Quand tu prends en priorité la question de la formation du citoyen, puisque c'est ce que tu as pris comme... un certain nombre considèrent aujourd'hui que ce qui est dans l'espace public en termes d'éducation, c'est surtout de permettre d'avoir un emploi, de pouvoir s'insérer par le travail, etc., etc. Donc je pense qu'on a besoin qu'il y ait du dialogue, de la réflexion, de la confrontation, je vais dire, sur ces questions-là. Je disais que j'avais une deuxième question qui me tient à cœur, c'est est-ce que la territorialisation des politiques éducatives à travers les PEDT, on parle des PEDT, mais on pourrait aussi parler des compétences qui ont été transférées aux régions, par exemple, hein, parce que est-ce que cette territorialisation elle permet réellement d'adapter les réponses éducatives aux besoins éducatifs, sociaux et culturels des enfants et des adolescents sur les territoires. Parce que le grand intérêt, me semble-t-il, de sortir d'une seule approche nationale pour construire une approche que moi je clarifierais, pardon, de global entre national et local, c'est d'une certaine manière de pouvoir adapter les réponses éducatives aux besoins des territoires. C'est certainement pas la même chose dans tous les quartiers que tu as évoqués de Villeurbanne. C'est certainement pas le même besoin entre les quartiers de Villeurbanne et le territoire rural. Est-ce que vous avez une expérience, finalement, d'analyse un peu fine de ces besoins de manière à construire les réponses qui permettent de lutter contre les inégalités? Parce que une analyse fine des besoins, finalement, c'est ce que cela permet.
Oui, alors je pense qu'il y a aussi la question de où en étaient les collectivités au moment où on a fait justement où la loi de refondation est arrivée. Parce que je prends l'exemple de la ville de Brest, j'aurais pu en prendre d'autres, mais bon, je faillote un peu. La ville de Brest était très avancée sur un projet éducatif local, global, et je dirais que les nouveautés ont plutôt conforté ce qui existait déjà, mais il y avait déjà un travail à la fois d'analyse des besoins et d'individualisation de la politique ou de territorialisation de la politique qui était faite pour des villes. Et je pense, paradoxalement, Villeurbanne était un peu dans ce cas-là. En tout cas, je l'ai un peu découvert sur le fur et à mesure, parce que moi, je suis élu que depuis 2014 sur l'éducation. Ça a été en fait un rattrapage à faire sur un certain nombre de choses, et donc y compris sur l'identification de ce qu'était le territoire. Donc je pense que intrinsèquement la territorialisation ne permet pas forcément d'avoir une individualisation, parce que le risque, c'était pointé d'ailleurs dans le rapport, c'est qu'on ait aussi une espèce d'uniformisation, parce qu'on ne sait pas comment on va remplir un PEDT, donc on va prendre un modèle et puis on va rentrer là-dedans. Mais en même temps, on ne peut pas se plaindre des textes. En l'occurrence, les textes permettent. Donc c'est à nous de nous emparer de ça. Et si on fait une vraie analyse territoriale des besoins et qu'on réunit les acteurs pour trouver des solutions, dans une période où on a moins d'argent, parce que ça, je veux dire, on ne peut pas échapper à cette contrainte-là, mais dans cette période-là, encore plus, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on se dise on ne pourra pas atteindre tous les objectifs tout de suite, mais on va se donner des objectifs prioritaires. Et c'est en ça que je pense que ça recrée finalement d'équité, parce que c'est en pointant là où on a des déficits et en essayant de les améliorer qu'on va réduire, plutôt qu'en en se disant en France on va tous faire de la même manière. Voilà, en tout cas c'est pas ce que tu induisais, mais c'est vrai que je pense que là pour le coup c'est à nous de le faire. Et comme la politique éducative doit être la mère de toutes les batailles, il faut que le maire à un moment donné se soit porté. Ça peut pas être simplement un élu, il faut que ce soit vraiment porté par l'ensemble de la collectivité. Mais je dirais que dans les textes aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses pour faire, et il faut qu'on fasse, quoi. Voilà.
Alors, le cadre permet d'agir. Il y a des premières demandes d'intervention dans la salle, donc c'est très bien. Il y a tout un tas d'autres questions qui se posent, mais on va attendre aussi les représentants des institutions pour élargir à la question de formation, par exemple, ou à des questions comme celle-ci. Là, je pense qu'il y a déjà de quoi, finalement, interroger Damien. Allez-y.
Merci. Je me demandais, par rapport à ce que vous venez de répondre à la question très pertinente qui vous était posée, qu'est-ce qu'on fait du PEDT de la ville de Béziers? De la ville de Béziers, pour répondre, pour aider à lutter contre les inégalités. C'est un exemple.
Oui, oui, oui. Prendre Fréjus ou... D'abord, à Béziers, les maires ont été élus quand même, donc il n'est pas arrivé du ciel. Hein. Donc voilà, puis je peux vous citer d'autres villes qui ne sont pas forcément Front National et qui ne font pas forcément des choses bien meilleures. C'est vrai que quand même, eux, ils cumulent un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'ai jamais considéré, et nous, on considère pas au réseau, qu'il ne doit pas y avoir de politique éducative nationale et qu'il ne doit pas y avoir une intervention de l'État forte, y compris en termes de régulation, de contrôle. Si on appliquait les textes de manière précise, le PEDT, on n'écrit pas n'importe n'importe quoi dedans. Normalement, si par exemple on veut déroger, il paraît qu'il y a des villes qui l'ont fait, aux 4 jours et demi avec une réduction horaire de la journée, ça ne peut pas se faire dans n'importe quelles conditions. Il faut que ce soit justifié par une raison locale. Donc c'est aussi à l'État de jouer son rôle de régulateur. Et puis c'est aussi, je pense, à l'ensemble des acteurs. Enfin, je pense sur Béziers, en l'occurrence, il y en a un certain, même chez les syndicats enseignants, qui se mobilisent. Voilà, c'est pour ça que la décentralisation et la territorialisation ne veut pas dire absence d'État, au contraire. Mais de la même manière que un État qui serait omnipotent ne ferait pas forcément de l'égalité ou de l'équité territoriale. Donc voilà, avant la réforme des rythmes scolaires, il y avait déjà un rapport de 1 à 20 dans ce que mettaient les communes. Bon, la décentralisation des écoles, elle date d'il y a très longtemps, dans l'école. Donc voilà, dans les bâtiments, vous allez à Marseille ou dans une ville ou un petit village, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Donc cette différence, elle existe déjà. Voilà, qu'il faille faire davantage de péréquation territoriale, on peut le souhaiter effectivement, mais ça, c'est aussi le rôle de l'État.
Oui, je vais m'autoriser à donner un point de vue, celui d'éducation populaire sur cette question-là. On est dans un processus d'évolution de la réponse éducative. Il va falloir aller au bout, je dirais, de cette évolution. Nous partageons totalement qu'il faille que l'État conduise une politique éducative ambitieuse. Nous partageons aussi le fait que demain, il faut les territorialiser et que les collectivités locales ont une place à prendre. On parle d'éducation, on pourrait prendre d'autres champs, des politiques publiques. Ça veut dire que demain, qu'est-ce qu'on installe comme espace de gouvernance de l'éducation dans notre pays, qui permet un dialogue, qui permet un contrôle, qui permet au moins que les valeurs de notre République soient respectées, qui permet, etc., etc. Et je pense que la question, elle est là. Alors moi, je prends un exemple. J'ai pris un exemple aux journées de la refondation. Dans notre pays, on a bien un Conseil national des finances locales, je crois que ça s'appelle. Alors vous allez me dire, mais il y a le Conseil supérieur de l'éducation. Ben, le Conseil supérieur de l'éducation, peut-être qu'il a aussi à avoir son objet un peu évolué, pas seulement pour valider un certain nombre de textes émanant du ministère, mais aussi pour écouter les représentants des collectivités dans les politiques éducatives qui sont mises en œuvre. Je pense que derrière le processus engagé, il y a de fait à trouver à chaque échelon, des espaces de gouvernance qui permettent aux collectivités et à l'État de dialoguer. Il y en a à tous les niveaux, hein, le Conseil départemental de l'éducation nationale, le Conseil académique, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, il faut certainement peut-être faire évoluer les compétences de ces espaces-là pour qu'ils deviennent de vrais espaces de dialogue sur les politiques éducatives qui sont développées et pas seulement l'espace de répartition des moyens des écoles et un espace de bagarre entre l'État et les syndicats. Non, mais je crois qu'il y a ça derrière votre question. Il va falloir de fait inventer les espaces où ça va pouvoir se dialoguer. Alors, c'était une première question. Est-ce qu'il y a d'autres, par rapport à ce qui était dit depuis le début ? Alors, une interrogation ici.
Alors il y a deux choses pour que je précise bien. Il y a le 0,25 en interne à la ville, c'est-à-dire qu'on réunit tous les services et les élus qui sont en charge d'une manière ou d'une autre. Donc ça va éducation, jeunesse, petite enfance, et puis sport, culture, vie associative, voilà. Et on se donne des sujets, on va se dire par exemple là on va travailler sur l'extrascolaire, l'offre périéducative. Voilà. Et en fait, on a cette traduction-là, là ouvert à tous, c'est les comités locaux Grandir à Villeurbanne. Et donc, dans ces comités locaux-là, on va retrouver tous les acteurs éducatifs qui vont être réunis sur le champ 0,25. Alors, on va dire c'est plutôt 0,18 parce que le champ jeune adulte est un peu moins couvert, même si avec sur les questions d'insertion que tu évoquais, hein, évidemment, qui sont absolument centrales, on y travaille avec les secteurs associatifs et puis avec il y a la prévention spécialisée aussi qui intervient dans ces comités locaux-là. Voilà, mais on arrive à réunir le premier, le second degré, l'éducation nationale. Enfin, je trouve que c'est des lieux qui sont assez intéressants. Oui, alors après, c'est toujours difficile de tout mettre dans tout aussi, quoi, parce qu'après, on fait un con. Mais effectivement, mais on s'interroge tout le temps sur la frontière. Est-ce que l'insertion professionnelle fait partie ou pas du projet éducatif, par exemple? Donc oui, en partie, mais on peut pas non plus. Voilà, si après on se disperse. Mais si on part du principe que c'est plutôt le projet éducatif qui va mettre en mouvement toute la politique autour, finalement, les frontières, elles seront toujours un peu poreuses, quoi. C'est peut-être aussi ce qu'il faut. C'est pas forcément tout inscrire dans un PEDT, mais qu'autour du PEDT, les choses s'organisent, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, contributions, interrogations, peut-être des champs que vous souhaitez voir développés qui ne l'ont pas été jusque-là? Alors, il y a une demande.
J'ai été plusieurs fois à Brest aux rencontres des PEL. On avait déjà un outil, quoi. On a eu les CEL il y a longtemps, j'en ai parlé ce matin. On a tout le temps eu des dispositifs éducatifs qui ont réuni des partenaires. Et là, alors, le PEDT, il a de ça en bien, c'est qu'il a remis les collectivités au centre de l'éducation un peu, il a permis de remobiliser tout le monde sur dans certaines communes où c'était pas forcément mobilisé, où c'était éclaté. Mais on avait des outils qui étaient quand même vachement bien, excusez-moi du vachement, qui avaient des PEL qu'on pouvait développer, quoi. Moi, ma commune m'a demandé de bosser sur un PEL, donc j'ai fait un PEL élargi où on parlait de l'insertion. On parlait de l'intergénérationnalité, quoi, le parcours de vie de 0 à 77 ans. Ouais, ça, c'est un appel. Et quand le PEDT est arrivé, Jacques, tant pis, t'es terminé, tu vas travailler sur le PEDT, c'est plus important. Bah, j'ai dit non, mais j'ai travaillé sur le PEDT.
Oui, mais je pense que c'est presque un faux problème si on le prend différemment. Bon, déjà, un, il n'y avait quand même pas tant de villes que ça, il y en avait un certain nombre, mais on était loin d'avoir ce qu'on a aujourd'hui en termes de couverture par un projet éducatif, donc c'est bien aussi qu'on vise, notamment par rapport à la question d'égalité qui était posée tout à l'heure, hein, d'avoir un projet éducatif partout, et en même temps l'un n'empêche pas l'autre. Alors je sais bien qu'on a tous été mobilisés, et même à Villeurbanne on commençait à avoir un projet éducatif local qui était global, et on se retrouvait avec un truc de 11 ans pour... mais pour bénéficier de ce qui allait nous permettre de faire fonctionner les choses, quoi, voilà, et avoir des accueils de loisirs. Et tout le monde savait ça, mais c'était un premier temps. Aujourd'hui, on tend à faire se rapprocher les deux. Et travailler sur un PEDT n'empêche pas d'avoir abandonné un PEL plus global. Et surtout, la circulaire parle bien, et elle en parle encore, d'un PEDT qui est large, qui peut être au-delà des 2-11 ans. C'est vrai que c'est plus tourné comme étant une exception que comme étant la règle, mais c'est là-dessus qu'il faudra, et pas que périscolaire pour le coup, surtout pas.
Oui, je partage assez. Pour être un acteur des rencontres des PEL de Brest, hein, depuis le début, pour avoir fait ce travail militant avec la ville de Brest, de faire reconnaître finalement, hein, et c'est tout ce qu'on a construit à Brest qui a permis, au moment de la loi de refondation, d'aller convaincre... J'ai participé à l'époque à une rencontre avec Yves, je ne sais pas s'il s'en souvient, avant les élections, une rencontre avec l'équipe de celui qui est devenu le ministre de l'Éducation nationale. On avait quand même bagarré pour dire que si, c'était une réalité, les PEL. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Yves, mais voilà. Donc, ça s'est construit sur tout ça. Peut-être qu'un jour, les historiens feront l'histoire de cette époque. Et vous avez raison, ça a commencé... dans le début des années 80, quand on a territorialisé l'éducation prioritaire, quand on a fait les premiers dispositifs d'aménagement des rythmes, hein, je ne sais plus si c'était Calma-Chevènement ou si c'était les contrats bleus, ou voilà. Hein? Ben oui, oui, Seguin et Pinal qui avaient des expériences, voilà. L'élément pour nous, le regard qu'on y porte aujourd'hui fondamental, c'est la généralisation. Et donc c'est la nécessité de passer à une autre dimension sur un ensemble de questions. C'est pour ça que j'évoquais la nécessité de faire bouger la gouvernance entre État et collectivité. Mais on pourrait prendre tout un tas d'autres questions. On va les aborder peut-être tout à l'heure avec les représentants institutionnels. La question des identités professionnelles demain, des emplois, des métiers d'animateurs, de leur formation... Dans notre pays, il n'y a par exemple pas de formation initiale pour s'engager dans les cursus de métiers de l'animation. Tous ceux qui vont passer des diplômes professionnels, ils le font aujourd'hui sur les fonds de la formation professionnelle continue et pas en formation initiale. Alors que de mémoire, mais M. Engel le dira tout à l'heure, je crois qu'il s'est créé 120 ou 130 000 postes d'animateurs dans les structures de loisirs sur les 2-3 dernières années. Donc on est confronté aujourd'hui, du fait de la généralisation, à un certain nombre de questions comme celle-là. Bon, alors il faut bagarrer des fois, mais quand on a l'habitude d'avoir fait un PEL, c'est le PEDT, c'est un peu plus facile quand même, je crois.
Si tu me permets, je voudrais prendre un autre exemple qui, je trouve, est assez illustratif. C'est la réforme du collège. On était avec la ministre d'Éducation nationale dans un collège où les enseignants, en fait, il y a eu un temps d'échange sur la mise en place de la réforme du collège. Et ils disaient, mais nous, les EPI, non seulement on y est favorables, mais on les faisait quand même largement avant la réforme. Et on a l'impression que maintenant que c'est mis en place, qu'on est plus corseté qu'avant. Et la réponse qu'elle a faite, que moi je peux que partager, c'est de dire, mais d'abord la réforme on l'a faite pour qu'il y ait une égalité aussi, parce qu'il y avait beaucoup de collèges où il n'y avait pas d'interdisciplinarité, c'était nécessaire d'y aller. Et vous, ça ne vous interdit pas, alors bon, évidemment, ceux qui étaient à côté d'elle tordaient un peu du nez, mais ça ne vous interdit pas de dépasser un peu les règles qu'on vous a données. Vous êtes dans l'esprit de la réforme, il faut, si vous allez au-delà, vous alliez déjà au-delà avant, ne revenez pas en arrière parce qu'on a plus normé les choses. Voilà, et je pense qu'on peut appliquer ce que je viens de dire sur les PEDT.
Yves, absolument.
C'est pas forcément à moi de poser des questions, mais j'avais quand même envie de vous en poser deux. La première a trait à ce qui s'est passé ce matin ici autour de la question de la place des associations et du rôle des associations et de l'articulation entre le projet communal aujourd'hui les projets associatifs, le rapport entre les associations et les collectivités. Ça fait l'objet d'un atelier, mais je voulais profiter de votre présence en tant que, quelque part, représentant d'une part des collectivités, de l'autre part des associations d'éducation populaire, pour que vous donniez votre sentiment sur, selon vous, l'état de la situation et surtout vers quoi on devrait aller, puisqu'il y a eu quand même une municipalisation forte en particulier sur le champ du périscolaire, et si je veux retranscrire un sentiment, peut-être un sentiment un peu qu'on est plus dans un rapport de prestataire que de partenaire. Donc je voulais vous interroger tous les deux là-dessus. Et le deuxième, c'est une deuxième question piège, c'est par rapport à la plénière d'hier matin. Comment, selon vous, et comment abordez-vous les enjeux d'égalité sur le champ du périscolaire ? Il y a eu plein de rapports du CNESCO, par exemple, sur la question de la réussite sur le temps scolaire, des inégalités sur le temps scolaire, mais sur ce nouveau champ qui est éducatif qui a émergé, sur quoi travaillez-vous en termes d'aller vers plus d'égalité et qu'est-ce qui est spécifique à ces temps-là, selon vous ?
Je fais la première, tu feras la deuxième. Oui, j'ai vu arriver M. Engel tout à l'heure. Peut-être qu'il pourra donner beaucoup plus précisément que moi, parce que je sais que les chiffres ont été délivrés à l'occasion d'un groupe de travail il n'y a pas très longtemps, l'évolution du nombre de structures déclarées en périscolaire, parce que ça donne un éclairage entre l'évolution au sein des collectivités et l'évolution dans le monde associatif. Alors en pourcentage ça a beaucoup bougé, mais je ne suis pas sûr qu'en masse ça ait forcément bougé, hein, mais j'ai crainte de dire des bêtises en disant les chiffres, je ne les ai pas mémorisés, je les ai vus hier, donc on y viendra tout à l'heure. Voilà. Je pense que la question que pose Yves est essentielle, ça ne va pas vous étonner, moi je représente les associations ici, elle est essentielle. Et d'une certaine manière, elle rejoint la question de la gouvernance. J'aurais pu l'évoquer aussi dans la question de la gouvernance. Soit on considère que les associations, elles ont contribué parce qu'elles ont eu une action militante à faire évoluer le système éducatif, et puis maintenant, ben, tant mieux, ça a évolué. Enfin, c'est pas tout à fait réglé quand même, hein. Il y a encore 2-3 bricoles à faire. soit on essaie de réfléchir, mais ça peut aller dans le sens de la politique maîtresse sur le territoire, soit on essaie de réfléchir au fait que pour construire les réponses éducatives qui visent à former le citoyen de demain, on a besoin d'une intervention associative qui est par essence de nature différente que celle de la collectivité. Parce qu'elle ouvre sur des champs, parce qu'elle innove, parce qu'elle détecte des dimensions particulières, parce que, etc., etc. Moi, je plaide pour que, d'une certaine manière, la prochaine circulaire sur les PEDT oblige, oblige la présence des associations aux côtés des collectivités territoriales. Voilà, et je le fais pas que par. Je pense que c'est essentiel et fondamental, notamment pour contribuer à un certain nombre de d'évolutions finalement des politiques éducatives. Moi, je pourrais prendre l'exemple à Paris du travail que les Francas font depuis 4-5 ans et qui a permis aujourd'hui, mais d'autres, hein, a permis aujourd'hui d'avancer avec la ville sur la problématique, par exemple, de la formation des agents de la ville. Mais il y a tout un tas d'autres exemples que l'on pourrait prendre. Je ne sais pas s'il y avait ça dans la question, Yves, oui, puisque tu as dit prestation. Moi, je plaide aussi pour qu'on puisse réfléchir aux moyens qu'il convient de mettre en œuvre pour sortir la relation association-collectivité de la mise en marché. La circulaire du Premier ministre qui est venue préciser la loi ESS sur les subventions doit permettre de trouver des cadres qui soient des cadres, je dirais, partenariaux et pas des cadres de prestataires. C'est le point de vue, je dirais, que nous essayons de travailler aujourd'hui. Avec une petite remarque, je pourrais citer une ville qui a mis en marché une activité et qui a été emmené au tribunal administratif par une société privée qui n'avait pas eu le marché. Donc ça veut dire, et puis vous étiez certainement un certain nombre au salon de l'éducation, et vous avez vu que sur l'espace éducatif du salon de l'éducation, il y avait un grand nombre d'opérateurs marchands qui commençaient à se positionner sur le périscolaire. Donc il y a un débat de fond politique, à savoir si demain on rentre dans ces logiques-là. Tout à l'heure, quelqu'un a dit à Béziers... À tout un tas d'endroits, on risque de donner à des officines marchandes le périscolaire, l'aide au devoir ou d'autres choses. Et c'est un problème de fond. C'est un problème de fond parce qu'il y a le système éducatif qui évolue, mais pour autant, il faut tout faire pour lui garder, je dirais, une dimension publique, non marchandisée. Et en plus, si on arrivait à faire que les associations, elles y contribuent par une mobilisation citoyenne, je pense qu'on construirait une vraie perspective au regard des enjeux qui sont posés aujourd'hui.
Je vais quand même répondre un petit peu à la première, en complément. Non, parce que je l'avais un petit peu anticipé, pour essayer aussi de l'expliquer, parce que c'est vrai que la demande dans la mise en œuvre des rythmes scolaires par les habitants, c'était, enfin par les parents notamment, c'était de garantir quand même une couverture égalitaire des écoles. Et d'ailleurs, souvent, moi j'ai eu à répondre à on a eu plus d'écoles nationales de musique à telle école, l'autre n'en voit jamais, bon, enfin tout ce que chacun ici autour de là a pu entendre. Le fait aussi de prendre la main sur le périscolaire, je le dis là, pas tant vis-à-vis des associations que vis-à-vis des directeurs d'école, ça nous a permis aussi de remettre le pied dans le temps scolaire qu'on avait, c'est-à-dire que maintenant on a quelqu'un en tout cas dans notre mode d'organisation qui est présent toute la journée dans l'école, ça change quand même le rapport des choses. Après, l'association d'éducation populaire, elle se fait dans les villes de manière effectivement différente, c'est pas que forcément dans les interventions elles-mêmes, ça peut être, tu l'as dit, dans la formation, ce qu'on fait nous, ça peut être dans l'évaluation aussi ou dans la construction du projet éducatif, donc je pense que ça peut se faire de différentes manières, mais je partage ce que tu dis sur le fait que On a besoin de relaisser de la place à cette initiative associative, à condition effectivement, et comme j'ai été critique moi-même envers les collectivités, je peux me permettre de l'être vis-à-vis de l'éducation populaire, mais pas vis-à-vis de l'éducation populaire au sens large et pas nécessairement vis-à-vis des Franquins en particulier, loin s'en faut. Non, mais sur une remise aussi en cause, parce que quand on est dans une logique consumériste ou de prestataire, c'est parce qu'il y a deux personnes qui, à un moment, ont quand même décidé de le faire. Voilà. Un qui décide de le proposer. Alors, c'est vrai que peut-être celui qui le demande a plus de poids que celui qui le reçoit, mais enfin, celui qui le reçoit se met aussi dans cette situation-là. Et ça veut dire être force de proposition, ça veut dire aussi être capable de repenser son propre projet associatif, ce que tu as dit, en s'intégrant en interagissant avec le projet communal. C'est vrai que moi j'ai demandé à un certain nombre d'associations de pas, sur le temps périscolaire, de pas consacrer des moyens énormes qui étaient réservés à très peu d'enfants quand il fallait qu'on touche un maximum d'enfants, y compris pour atteindre des objectifs d'atteindre un maximum de monde, et que ça demande aussi des remises en question, et aussi de remises en question par rapport au projet d'école, tout comme le projet d'école lui-même doit se remettre en question par rapport au projet associatif du quartier. Donc là, on a encore beaucoup de travail. Et par rapport à la question des inégalités sur le temps périscolaire, je pense que ça a beaucoup trait aussi à l'évaluation de ce qu'on a fait, parce que ça, c'est encore quelque chose qui est encore insuffisant. Mais qu'est-ce qu'on doit évaluer et quels sont les objectifs? Du coup, ça, vous en avez parlé ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on attend en termes de réussite éducative via le champ périscolaire? C'est peut-être déjà ce qu'il faut nous-mêmes définir. Donc, je pense que dans l'évaluation, et dans l'évaluation plus qualitative aussi, parce que quantitative on le fait plutôt bien, enfin on commence à le faire plutôt pas mal, mais qualitative, est-ce que ça, ce que le temps périscolaire a pu apporter en revenant aussi à la question du socle commun par rapport au reste, je trouve que là on sait vraiment ce que dans notre plan de travail des trois prochaines années.
Je vais y répondre aussi, puisque voilà, et je partage ce qu'a dit Damien sur le fait que cette transformation des réponses éducatives, elle interpelle aussi les organisations associatives et les mouvements d'éducation populaire. Et d'ailleurs, je veux dire que la manière dans mon organisation dont on essaie d'y répondre, c'est que finalement on essaie de reconstruire, je vais le dire de cette manière-là, toute la dimension pédagogique des temps périscolaires. Puisque la reconnaissance de ces temps-là, dans le processus éducatif, finalement, alors, vous avez compris que quand je dis des temps périscolaires, je ne parle pas seulement des nouveaux temps périscolaires, mais je parle de l'intégralité des temps périscolaires sur une journée. Et vous savez qu'il y a des enfants qui ont pratiquement autant de temps périscolaires que de temps scolaires dans une journée. On peut le regretter, ça fait trop long, etc., mais c'est des réalités. Donc on essaie de spécifier finalement la pédagogie qu'il faut développer dans les différents temps, de manière à ce qu'elle contribue, alors soit à la bienveillance nécessaire, c'est plutôt les temps périscolaires du matin, où il faut plutôt accueillir que, hein, soit à une éducation à l'alimentation, parce que les temps périscolaires c'est aussi le midi, soit à des mises en pratique, je vais dire, d'un certain nombre de compétences qui ont été développées pendant le temps scolaire. Donc ça demande, je vais dire aujourd'hui, pour répondre à la question d'Yves sur la question des inégalités, ça demande aujourd'hui finalement de spécifier un petit peu ce qui est fait dans les différents temps. Ça demande également, quand on est sur un territoire, de veiller à ce qu'il y ait de la mobilité sur le territoire, et ça demande qu'il y ait d'une certaine manière un travail avec les différentes familles, je dirais, en réponse aux besoins, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je ne sais pas si on a répondu aux questions, mais on pourrait passer, je dirais, à la deuxième partie de l'après-midi. Tu souhaites, Yves, peut-être
saluer et remercier Serge Fraisse et Marc Engel, en voulant excuser Françoise Pétraud, mais je crois que vous avez eu un contact avec elle et que vous pourrez vous exprimer au nom aussi bien de l'éducation nationale que de jeunesse et sport. Donc merci d'être là et d'apporter justement le point de vue institutionnel autour de ces débats. Et sur l'avenir des PDT, l'entrée dans la deuxième phase finalement, hein,
une phase plus qualitative et comment on passe avec mieux d'État, et non pas moins d'État, mais avec mieux d'État vers comment on accompagne le passage du projet communal au projet territorial avec tous les acteurs et avec le développement du pouvoir d'agir.